Que serions-nous sans toi, Seigneur? Comment pourrions-nous comprendre en profondeur les paroles qui sont inscrites dans la Bible si ton Saint-Esprit n'était pas avec nous? Si ton Saint-Esprit ne donnait pas cette intelligence plus qu'humaine, Seigneur, une intelligence spirituelle pour comprendre ce que tu veux dire à chacun de tes enfants. Oui, nous te bénissons, Seigneur, d'être là, réunis devant toi, tous ensemble. Nous te bénissons de savoir que ton Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Nous te bénissons de savoir que tu es aussi présent en nous, Seigneur, par le même Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit clairement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si, nous le savons, Seigneur. Et nous te bénissons pour cette merveille. Ça dépasse notre capacité de comprendre, notre capacité humaine de comprendre, mais spirituellement, nous pouvons le comprendre, Seigneur. Et nous te disons vraiment que c'est une merveille. Tu es avec nous et nous te bénissons. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, excusez-moi, et à partir du verset 19, c'est le texte du jour. Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui l'ont cru. » C'est un texte bien connu que je viens de vous lire, bien sûr. Jésus, donc, vous le savez tous, a multiplié ses apparitions après qu'on ait découvert son tombeau vide. La première apparition concerne Marie-Madeleine. Elle s'est passée donc dès les premières heures du dimanche. C'est dans Jean 20, début du chapitre 20. La seconde apparition concerne les disciples d'Emmaüs. Dans l'après-midi de ce même jour, dans Luc 24. La troisième apparition concerne l'apôtre Paul, concerne Paul. On voit ça dans 1 Corinthiens 15. Et notre texte, que je viens de lire, rapporte donc la quatrième apparition qui a lieu le soir du dimanche, avec tous les disciples, sauf Thomas. Il y en aura une cinquième apparition, 8 jours plus tard, donc avec les disciples et Thomas. 4 autres apparitions suivront celle jusqu'à l'ascension. Et parmi elles, celle où Jésus apparaît à une foule de 500 croyants. On voit ça dans 1 Corinthiens 15. Est-ce qu'il était important que Jésus se montre vivant après sa crucifixion et son ensevelissement? Bien sûr. Les principaux sacrificateurs auraient bien aimé que leur stratagème, qui consistait à faire croire que les disciples avaient enlevé le corps de Jésus, soit accepté comme une vérité. Matthieu 28. Ils auraient été débarrassés de l'idée embarrassante pour eux d'un Jésus revenu à la vie. Nous voyons donc que les fake news ne sont vieilles comme le monde. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le but des apparitions. C'est que Jésus voulait donner des preuves irréfutables de sa résurrection aux disciples qu'il avait connus en chair et en os. Jésus connaît l'incrédulité du corps, du cœur humain. Il fallait aux disciples une preuve incontestable. Et c'est la raison pour laquelle, en plus d'apparaître devant ses disciples, le verset 10 nous dit « Il leur montra ses mains et son côté » comme une preuve que c'est bien lui qu'ils ont vu mourir, cloué sur la croix et mis dans un tombeau et qui est maintenant vivant devant eux. Si nous nous mettons à la place des disciples présents, quelle aurait été notre attitude en voyant Jésus apparaître soudainement au milieu de nous, alors que toutes les portes de la pièce où nous étions étaient fermées, pas le contraire d'ouvert, fermées, verrouillées. Le texte de Luc 24-36, qui rapporte la même scène, nous dit que les disciples étaient saisis de frayeur et de crainte parce qu'ils pensaient voir un esprit. Il faut reconnaître que c'est une situation qui sort de l'ordinaire. Les disciples l'ont vécu 2 fois à 8 jours d'intervalle, la seconde fois avec la présence de Thomas, au verset 26, comme on l'a vu. Comment peut-on expliquer la soudaine apparition de Jésus dans la pièce dans laquelle les disciples se trouvaient enfermés à double tour par crainte des Juifs, nous dit le texte. Ça ne vous a pas interrogé, ça? On a l'impression de regarder un film avec un effet spécial où l'on voit un personnage passer à travers une porte ou un mur. On avait vu déjà des films comme ça. La raison du mal, la raison humaine a du mal à concevoir que Jésus ait pu faire la même chose, mais sans trucage. C'est bien pour cela que les exégètes qui ne veulent pas faire une entorse à l'infaillibilité de leur raison explique que c'est les disciples qui ont ouvert la porte à Jésus ou qu'elles se sont ouvertes toutes seules comme dans Actes 12 où Pierre sort de prison miraculeusement. c'est effectivement moins dérangeant pour la raison, d'accord. Mais comment se fait-il que ces mêmes exégètes ne soient pas dérangés par la résurrection qui bouscule aussi beaucoup la raison? La seule réponse que je peux apporter, c'est ma propre incohérence. Je n'avais aucun mal à accepter tous les miracles rapportés dans les évangiles, tous sauf un, la multiplication des pains. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça. J'ai quand même fini par l'accepter, cette multiplication des pains, comme un miracle réel. D'autres exégètes qui s'attachent au texte biblique font remarquer que dans la phrase « Jésus vint », le verbe grec « venir » indique plus une apparition subite qu'une simple entrée de Jésus. Et c'est le même verbe au verset 26, lorsque Thomas se trouve avec les disciples. Mais alors, si ce n'est pas un trucage hollywoodien, comment expliquer cette apparition qui tient vraiment du miracle? Alors, plusieurs exégètes pensent que la présence subite de Jésus au milieu des disciples ne peut s'expliquer que par le fait que le corps de Jésus était déjà soumis à la puissance de son esprit. Bien sûr, ce corps était encore celui qui lui avait servi d'organe pendant sa vie, mais comme déjà avant sa mort, ce corps obéissait à la force de sa volonté. Pensons à Jésus qui marche sur l'eau, quand même, hein, c'est spécial. Maintenant, transformé par la résurrection, il était plus rapproché encore de l'état de corps glorifié et spirituel dont parle Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. Ça, c'est une citation de Frédéric Godet. Plusieurs passages des évangiles suggèrent que le corps de Jésus ressuscité avait dû subir des transformations, j'ai pas trouvé d'autre mot, puisque Marie-Madeleine ne reconnaît pas Jésus et le confond avec le jardinier, Jean 20, 14. Même chose avec les disciples d'Emmaüs qui marchent un bon moment avec Jésus en lui parlant et dont le texte dit « leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Souvenons-nous aussi que Jésus n'a pas fait qu'apparaître subitement, il a aussi disparu subitement, comme on le voit dans le même récit des disciples d'Emmaüs. Je cite « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Luc 24. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ça. Je vais continuer. Dans notre texte, avez-vous remarqué que par 3 fois, Jésus a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. 3 fois. Ce n'est pas une simple salutation juive. À la rigueur, on pourrait le penser la première fois qu'il prononce ces mots, verset 19. Mais il répète la même formule au verset 21. Cette salutation a donc un sens plus élevé. Lequel? Jésus invite ses disciples à ouvrir leur cœur à la paix de la réconciliation qu'il leur apporte en ressuscitant. Convaincre les disciples de la réalité de son apparition, c'était leur donner la preuve de la bienveillance divine qui leur rendait leur maître. c'était transformer leur frayeur en paix et même en joie. Au verset 21, Jésus redit la même formule. Ce n'est pas seulement comme à des croyants que Jésus veut donner la paix. C'est en vue de leur vocation future. La paix, c'est le fondement de l'apostolat. C'est pour cela que Jésus répète « La paix soit avec vous » et qu'il ajoute immédiatement « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ce message de paix et de réconciliation que Jésus leur apporte, ils auront à le prêcher au monde entier. Voilà ce qu'écrit Paul à ce propos. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné quoi ? Le service de la réconciliation. 2 Corinthiens 5. Remarquons une chose importante. Jésus donne d'abord une mission à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il leur donne le don pour accomplir cette mission. Le texte dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Et enfin, il leur révèle la grandeur et la portée de cette mission. Je cite, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors avant d'expliquer ce verset passablement difficile à comprendre, il est important de comprendre que la mission de Jésus et celle qu'il confie à ses disciples de tous les temps sont identiques en ce qui concerne l'évangélisation, bien sûr. Jésus est venu apporter au monde la bonne nouvelle de sa résurrection et les disciples sont chargés de quoi ? Eh bien, de poursuivre cette mission. Comprenons-nous l'importance que Jésus attache à la mission des disciples de tous les temps ? Aucun disciple ne peut s'y soustraire et Dieu nous donne tout pour l'accomplir. Sa paix et son esprit. Alors venons-en au verset 23 que je relis. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque vous lisez ce verset, personnellement. Pas facile à comprendre, hein ? Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. On voit ça dans Matthieu 9. Il avait aussi le pouvoir de les retenir. On voit ça dans Jean 15. Souvenez-vous de l'épisode de la guérison d'un paralytique amené devant Jésus par des hommes, à qui Jésus dit « Prends courage, tes péchés sont pardonnés ». Les scribes sont scandalisés, les scribes présents sont scandalisés d'entendre cela. « Cet homme blasphème », disent-ils. Alors Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous connaissez la suite. Il ordonne à l'homme de se lever et cet homme est guéri. Si Jésus a le pouvoir de guérir un paralysé, il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Dans la façon dont le verset 23 est écrit, on pourrait penser que Jésus donne aux disciples le même pouvoir, un pouvoir qui leur appartiendrait. Ce pouvoir appartenait bien à Jésus, pourquoi ? Parce que Jésus, c'était la parole faite chair, comme il est dit dans Jean 1. En ce qui concerne les disciples de tous les temps, le pouvoir qui leur est donné de pardonner les péchés vient uniquement de la puissance et de l'autorité de la parole dont ils sont les messagers. Je m'explique. Quand au cours du culte dominical, le liturge annonce aux personnes présentes, aujourd'hui c'était Sophie, que leurs péchés sont pardonnés. Après la confession de leurs péchés, Dieu ratifie la parole prononcée. Leurs péchés sont effectivement pardonnés parce que c'est le pouvoir de la parole qui rend effectif le pardon par l'action du Saint-Esprit et non pas par un pouvoir du liturge de Sophie elle-même. C'est exactement la même chose dans le cadre d'une relation d'aide. Si la personne confesse à Dieu ses péchés devant vous, vous pouvez lui annoncer et lui affirmer que ses péchés sont effectivement pardonnés. Pourquoi ? Parce que c'est la parole qui l'affirme. C'est clair ce que je suis en train de dire. Oui ?
C'est une délégation de pouvoir.
Quant aux péchés qui sont retenus, eh bien, on peut dire que c'est la conséquence des péchés qui ne sont pas reconnus et confessés, et non pas un pouvoir qui nous serait donné à nous, pauvres pécheurs. En effet, le but essentiel de la mission, c'est le pardon des péchés. C'est pas de retenir, c'est le pardon. Trois versets de la première épître de Jean nous apportent un éclairage supplémentaire pour comprendre ce que Jésus dit au verset 23. Je cite. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité, elle n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1. Venons-en à la seconde partie de notre texte, c'est-à-dire l'incrédulité de Thomas, lorsque ses amis lui disent qu'ils ont vu Jésus vivant, puis sa rencontre avec Jésus et son revirement complet. On pourrait se demander pourquoi Jésus est apparu une seconde fois aux disciples. Est-ce parce que la première fois, Thomas était absent ? C'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce que ces 12 hommes choisis par Jésus avaient une mission très importante. Faire connaître la bonne nouvelle de la résurrection au monde entier en faisant de nouveaux disciples. Ce 12e homme, Thomas, absent au moment de la première apparition, n'était pas de trop pour une telle mission. On peut donc penser que c'est une des raisons pour laquelle Jésus est revenu. Mais il y en a une autre qui a encore beaucoup plus de valeur. C'est l'amour que Jésus porte à Thomas. Il ne peut pas se résoudre, Jésus, à ce que ce disciple passe à côté de la foi en la résurrection et ne soit pas rempli de la paix qu'il est venu apporter aux autres disciples, parce que comme disciple, il en aura besoin pour accomplir la mission que Jésus lui confie. Avez-vous remarqué ce que Jésus dit à Thomas et rien qu'à lui? Lorsqu'il apparaît miraculeusement dans la pièce fermée à double tour, je relis le passage. Avance ici ton doigt, regarde mes mains, et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. C'est presque les mêmes paroles que Thomas avait prononcées devant ses amis pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas croire en la résurrection de Jésus. Alors, on imagine combien Thomas a dû être confondu et triste en entendant son maître prononcer les paroles qu'il avait dites 8 jours avant pour nier sa résurrection, alors qu'il le voyait bien vivant en face de lui. Il a dû se demander, mais comment Jésus a-t-il su ce que j'avais dit à mes amis? J'imagine qu'il n'a jamais oublié ce moment de sa vie. Jésus ne lui fait pas de reproche. Il lui dit seulement, ne sois pas incrédule, mais crois. Alors cette parole déclenche immédiatement un cri d'adoration, mon Seigneur et mon Dieu, et le fait passer de l'incrédulité à une foi profonde. Que serait devenu Thomas s'il n'avait jamais rencontré Jésus vivant? Aurait-il persisté dans son incrédulité? On ne peut pas répondre avec certitude à cette question, bien sûr. Ce qui est important, c'est que Jésus s'adresse à lui une dernière fois. Parce que tu as ma vue, tu as cru. Et il ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans cette dernière phrase, Jésus souligne quoi? Il souligne le caractère tout nouveau de l'ère ERE qui commence. Désormais, la foi des croyants devra se fonder sur le témoignage apostolique rapporté dans les évangiles. Elle ne sera plus fondée sur la vue comme celle de Thomas avant que Jésus apparaisse devant lui. S'il en était ainsi, c'est-à-dire si la foi était fondée sur la vue, la foi ne serait plus possible dans ce monde, car Jésus n'apparaîtra plus vivant devant chaque homme, comme il l'a fait avec ses premiers disciples. Est-ce à dire que ses disciples étaient avantagés par rapport à nous? Non, absolument pas. Le Saint-Esprit que Jésus ressuscité a répandu sur les hommes après être remonté vers le Père, a le même pouvoir de conviction qu'une apparition en chair et en os à ceux qui acceptent de se laisser interroger par les textes de la Bible. Nous savons hélas que des centaines de millions d'hommes aujourd'hui demandent à voir pour croire. Comme Thomas, avant que Jésus apparaisse vivant devant lui. C'est tout l'enjeu de l'évangélisation que chaque croyant est appelé à vivre. Approprions-nous la paix que Jésus a donnée à ses disciples en leur confiant cette mission. Approprions-nous la paix qu'il nous donne aujourd'hui encore et comptons sur la puissance de l'Esprit avant de compter sur nos propres forces. Et pour terminer, je voudrais, avec la parole de Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je voudrais vous lire une légende, vous raconter une légende. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre qui s'étendait sous leurs yeux. Seul le petit colibri, vous savez ce que c'est un colibri, ça pèse même pas 2 grammes, je crois. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son petit bec pour les jeter dans les flammes. Après un moment, le tatou, vous savez ce que c'est que le tatou, un tatou, hein? Le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait dérisoire, lui dit « Mais Colibri, t'es pas fou ? C'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit « Qu'importe, je fais ma part. » Et le commentaire de la CMM dit, pour nous, la part du colibri symbolise l'engagement que nous prenons dans la diffusion de la bonne nouvelle qui bouleverse et change toute vie et que chacun d'entre nous peut prendre à son niveau. Si chacun, comme le colibri, fait sa part, alors tout peut changer. Voilà, Seigneur, tu peux effacer toutes les paroles de l'homme pour que ne reste que ce que tu veux dans le cœur, dans mon propre cœur, Seigneur, et dans le cœur de mes frères et de mes sœurs qui sont ici. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui peut faire comprendre profondément les choses. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions d'être là tous ensemble. Devant toi, parce que c'est vraiment devant toi, Seigneur, que nous sommes. Et devant ta parole, qui nous dépasse tellement, Seigneur, qui nous dépasserait incroyablement si tu n'étais pas présent en nous par ton Saint-Esprit, si tu ne nous donnais pas l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que tu nous adresses à travers ta parole. Alors merci, Seigneur, pour ce miracle que tu fais. À chaque fois que nous aurons ta parole, à chaque fois que nous voulons un peu mieux comprendre ce que tu veux nous dire au fond du cœur. Amen. Amen.